les ondes buissonnières. Oui. Diffusion sauvage.
Les ondes sauvages diffusent.
Non.
Diffusion sonore pour oreilles encrassées.
Non.
Diffusion sauvage pour des oreilles apprivoisées.
Non.
Les ondes buissonnières, diffusion sauvage de sonorités apprivoisées.
Yes.
Curieux des ondes et amoureux de la radio, bonjour. Vous écoutez les ondes buissonnières sur Radio Saint-Ferréol et aujourd'hui, on vous propose une émission de la radio cousine BLV, radio BLV comme Bourg-les-Valence. Et là-bas, il se trame une émission depuis quelques mois, depuis quelques courtes années, l'émission Titanesque. Elle est présentée entre autres par Kat de l'association Titane et elle a été enregistrée, celle-ci précisément, à Cray, dans le studio de Radio Saint-Ferréol la semaine dernière. Kat y a invité deux animatrices bénévoles de Radio Saint-Fé, La Petite Blanc et puis Marie-Aude, qui sont animatrices d'émissions féministes. Je vous laisse écouter, ça s'appelle l'émission Titanesque et c'est dans les ondes buissonnières tout de suite.
C'est la Titanesque Mission, une coproduction Titane Radio BLV.
Bonjour, bonjour, aujourd'hui la Titanesque Émission est hors les murs chez Radio Saint-Ferréol à Cray sur 94.2 et sur le web bien sûr pour une émission sur les émissions féministes diffusées par Radio Saint-Ferréol. C'est trop bien, je suis super contente d'être là, nous avons Élie et Héloïse à la technique et nous recevons La Petite Blanc pour l'émission mensuelle Du Poil Sous les Bras.
Bonjour.
Et Marie-Aude pour l'émission mensuelle Éco-féministe.
Bonjour.
Bien sûr, comme d'habitude, nous écouterons la chronique de Lucie, celle d'Anna et la chronique jeunesse d'Oxane avec une petite surprise aujourd'hui. Mais en attendant, on va se régaler avec des extraits des émissions de La Petite Blanc et de Marie-Aude et Alexane, puisque Alexane n'a pas pu venir avec nous aujourd'hui, mais c'est une émission co-réalisée. Et on va commencer tout de suite pour se mettre dans l'ambiance avec un extrait d'Éco-féministe. Je vous laisse écouter.
C'est quoi pour moi être féministe? Je pense que c'est déjà souhaiter que chaque individu dans le monde puisse vivre librement comme il l'entend, juste dans le respect de la liberté des autres.
Je pense que je dirais que c'est d'abord ouais, une façon de percevoir et de ressentir ce qui se passe autour de moi et qui déclenche en fait un sentiment d'injustice, la volonté que ça soit différent.
Moi, je vais donner la réponse que m'avaient faite mes parents quand je leur avais posé la question quand j'avais 14-15 ans, enfin à l'adolescence. Ils m'avaient dit qu'être féministe, c'était considérer que les hommes et les femmes devaient être égaux, étaient égaux, et donc revendiquer cette égalité.
Moi, je crois que j'ai toujours été féministe. Et puis ça s'est affirmé, je pense, adolescente. Et puis après, il y a eu des rencontres marquantes. J'ai commencé aussi à lire des textes.
Quand j'ai compris qu'il y avait l'association du capitalisme au patriarcat, l'association de l'exploitation des corps et des ressources à l'exploitation des femmes, etc., ça m'a fait quand même un truc où je me suis dit, mais en fait, je suis aussi un peu féministe, quoi, en plus d'être écolo et tout ça.
Eh bien, même si c'est toujours une question difficile à répondre comme ça, être féministe, pour moi, c'est déjà revendiquer, on va dire, quand même un certain héritage, de lutte à un niveau historique, de, voilà, on va dire, 3 siècles de lutte pour l'égalité des droits. mais c'est aussi revendiquer toute une théorisation qui s'est faite dans cet espace de lutte, donc tout un ensemble en fait de théoriciennes féministes dans lesquelles je me reconnais. Et finalement, si je devais le définir le plus simplement du monde, moi je dirais qu'être féministe aujourd'hui, c'est lutter pour la fin de l'oppression de genre. Du coup, moi je me reconnais aussi dans un féminisme qui est un féminisme inclusif et qui lutte pas uniquement finalement pour l'émancipation des femmes cis, mais bien sûr pour l'émancipation des femmes et des trans. Et au-delà, qui remet en cause le genre dans sa globalité, et qui donc estime que les hommes aussi ont quelque chose à trouver dans cette lutte-là, même si les femmes et les personnes trans demeurent les actrices, acteurs principaux de cette lutte.
Alors, Mario, dès la petite blanc, pour vous faire de la radio, c'est être féministe. Est-ce que c'est une forme d'action féministe, Mario?
Ah ben, je me suis mise à la radio pour pouvoir justement. En fait, c'est venu de mon engagement féministe. Je me suis dit, mais en fait, je manque plein d'éléments. Donc, autant le partager et le faire à la radio. En fait, toutes les questions qu'on avait avec Alexane, au lieu qu'on les garde pour nous, eh bien, en fait, la radio, c'est le prétexte pour nous, déjà, nous auto-éduquer, et le diffuser, voilà. Donc, ça donne un moteur chaque mois sur un thème.
Et comment vous choisissez les thèmes, alors? Parce que j'ai fait la liste, j'ai regardé sur le site la liste des émissions. Je la reprends. Il y a, bon, la dernière, les masculinités, on écoutera un extrait. Bien sûr, c'est quoi être féministe? Et puis, il y en a d'autres qui se sont imprimés au dos de ma feuille. Donc, c'est les femmes et l'espace public, femmes d'artistes, les femmes et l'art, être féministe en couple hétérosexuel, les femmes et la médecine. On peut toutes les réécouter sur le site de Radio Saint-Ferréol. Donc, comment vous choisissez vos thèmes?
Alors, il y a un petit peu deux axes. Il y a les enjeux de la lutte féministe. Donc, par exemple, c'est quoi être féministe en couple hétérosexuel? Donc, là, en fait, on va plus s'adresser quelque part à des personnes qui s'intéressent au féminisme. Et après, on a des thématiques sur la place des femmes dans la société. Et là, on prend les femmes et un thème. Les femmes et l'espace public, et les femmes et la médecine. Et la prochaine émission, ça va être sur le langage, la langue française. Et donc, on n'a pas un modèle fixe dans nos émissions. Souvent, il y a une invitée. Mais il y a eu des fois, en fait, au début, on faisait des soirées sur le thème public où on interrogeait du coup différentes personnes sur le thème, et après on prenait des morceaux, on les ajoutait à l'émission. Finalement, avec le deuxième confinement et tout ça, c'était un peu compliqué, donc on a arrêté. Et on a la dernière émission, on a été avec trois invités, mais pas experts. En fait, sinon c'était des fois des universitaires, une médecin, une géographe. Tout à l'heure, on entendait Aurore Coquelin, en fait, qui est une sociologue. Enfin voilà. Du coup, on va chercher des personnes qui ont des choses à dire sur le thème.
Vous prenez la carte de disparition des animaux sauvages, par exemple. Donc on la voit, hein. Où est-ce que la biodiversité animale est la plus menacée? Donc il y a une carte, d'accord. Vous prenez la carte des facteurs, enfin des flambées épidémiques de nouveaux virus, et puis vous prenez la carte de la disparition des langues, la diversité linguistique, hein. Donc des langues qui sont parlées par des peuples indigènes, enfin, etc. Eh bien, ces trois cartes se superposent totalement. C'est-à-dire que voilà, plus on détruit la biodiversité, plus il y a d'émergence de maladies infectieuses, et aussi plus cette diversité linguistique est menacée, parce que c'est là aussi où par exemple des peuples indigènes disparaissent, quoi. Voilà. Donc c'est lié, et c'est lié aussi, ce qui est très très triste dans cette histoire, c'est que alors moi j'adore les langues, hein, j'en parle plusieurs, j'adore ça. Alors déjà ça me rend toujours très très triste de savoir que une langue a disparu, parce qu'avec une langue, eh bien, c'est ce que disent les scientifiques, hein, c'est plein de savoir. Et là, dans le domaine qui nous intéresse, dans le domaine de la protection de l'environnement, mais au sens très noble du terme, c'est-à-dire vraiment protéger nos conditions de vie, vivre en harmonie avec l'environnement dans lequel on est, pour avoir une bonne santé mentale, physique, etc., eh bien, il y a de grands savoirs qui sont en train de se perdre, hein, et qui sont portés par des peuples indigènes, évidemment. Et quand ils disparaissent, ces peuples et leur langue, c'est tous ces savoirs qui disparaissent aussi, hein, sur leurs relations ancestrales, et malgré l'adversité, parce que Dieu sait que pour survivre au XXIe siècle, quand on est un peuple indigène, eh bien, ça n'a pas été facile, hein, eh bien, on perd tout ça, on perd tous ces savoirs.
Alors toi, la petite Blanc, est-ce que pour toi, faire de la radio, c'est une forme d'action féministe? Et là, on a entendu un extrait que tu as choisi, et vous avez choisi toutes les deux les extraits. C'est ton émission de mars sur la fabrique des pandémies avec Marie-Monique Robin. Et il semblerait que donc pour toi, être féministe, c'est aussi, peut-être, je ne sais pas, l'écologie, une vision plus large. Dis-nous.
Alors c'est sûr que dans l'extrait, le premier extrait que tu as passé de l'émission écoféministe, il y a une des personnes qui dit à un moment, effectivement, pour moi, être féministe, c'est lutter contre les différences de genre. Voilà. Je crois que pour moi, c'est beaucoup plus large que ça. C'est-à-dire être féministe, c'est pas seulement l'égalité homme-femme, c'est pas seulement une égalité de genre, de sexe, c'est une égalité... pour toutes et tous, pour tous les êtres humains, pour c'est lutter contre le racisme, c'est lutter contre l'islamophobie, c'est lutter contre toutes les formes d'oppression et d'inégalité, quoi. C'est à mon sens, être féministe juste pour une égalité homme-femme, ça va pas assez loin. Et c'est un peu, en tout cas, l'émission du coup que je fais. Moi, je suis pas venue à la radio pour faire cette émission. On va dire, j'étais plutôt déjà dans la radio depuis longtemps. J'ai toujours aimé animer, proposer des émissions radio, participer comme ici. Et je me suis dit, évidemment, si je fais quelque chose, ce sera quelque chose de féministe, parce que je pense qu'on ne peut pas être féministe à mi-temps ou féministe dans certains aspects de sa vie et pas dans d'autres. Enfin, c'est quelque chose qui forcément demande une permanence, on va dire. Et du coup, mon idée, c'était pas de me dire je vais faire une émission féministe au sens de sujet purement féministe ou d'expliquer ce que c'est le féminisme, mais plutôt que quels que soient les sujets traités, d'abord je vais donner la parole à des femmes parce que ça rééquilibrera un tout petit peu, voilà, c'est ma participation pour rééquilibrer la présence médiatique très largement dominée par les hommes. Et je me suis dit, sur tous les sujets, en fait, je suis sûre que je peux trouver des femmes tout à fait capables de me parler des choses de façon passionnante, voire beaucoup plus passionnante que certains hommes. Et voilà. Et partant de ça, j'avais envie d'abord de faire une émission ou sur des sujets qui m'intéressent. Donc si, en ce moment, Marie-Monique Robin a sorti un livre qui s'appelle « La fabrique des pandémies » aux éditions La Découverte, et que ça m'intéresse, parce que le sujet m'intéresse, que le livre est passionnant, eh ben, c'est très bien, et ça a toute sa place dans une émission qu'on peut dire féministe, parce qu'on va apporter, au travers de ce sujet-là, un regard féministe, au minimum le mien. En général, les invités que je choisis, enfin, tout le temps quasiment, les invités que je choisis, ont aussi ce regard-là, et voilà. Et ça permet de parler, je fais une émission avec Vanessa Codaccioni sur la légitime défense. C'est pas a priori un sujet féministe, mais on peut en avoir une lecture féministe, et ça peut être extrêmement intéressant. Que ce soit une femme qui soit experte de ce sujet, parce que forcément, il y a des enjeux liés au fait d'être une femme, et on va pouvoir plus précisément parler de ça.
Les discriminations, c'est toujours là. Après, j'ai l'impression, enfin, ce que j'ai du mal à expliquer des fois à des personnes qui sont pas du tout butch, c'est que là, il y a eu le spectacle d'Anna Gatsby, par exemple, Nanette, et là, il y a la série Work in Progress. En tout cas, c'est hyper bizarre parce que Anna Gatsby, par exemple, j'ai un collègue qui me disait, ah, mais c'est super intéressant, le propos est génial, et en même temps, tellement il me disait ça, je me disais, mais tu te rends pas compte qu'en fait, moi, c'est la première fois que je vois quelqu'un qui me ressemble dans un média de masse, quoi. Se rendre compte que c'est la première fois que de voir une butch qui, je sais pas si elle définit comme butch, mais en tout cas de voir une lesbienne masculine comme ça, qui a la classe, qui est sur une scène, qui est connue, qu'on applaudit et tout, ne grandir sans ça jamais, c'est quelque chose que lui, par exemple, je me disais, il peut pas s'imaginer ce que ça représente pour moi, quoi. Moi, quand je regarde la série Working Progress, je me bouffe les ongles, je suis trop angoissée, je suis trop émue. Enfin, c'est aussi un manque de représentation et de mise en avant de ce que peuvent ressentir les personnes butch, comme plein d'autres catégories de la population. Hein. Je pense que c'est juste un marqueur de la discrimination ou quoi. C'est juste d'avoir aucune visibilité, du coup aucune place pour nos sentiments, aucune place pour se projeter dans qui on est, dans ce que c'est nos vies et tout ça. Et du coup là, juste d'avoir deux personnes comme ça en quelques années, moi ça me bouleverse en fait, ça m'émeut vachement en fait. C'est un peu mon test d'ailleurs, je montre le spectacle d'Anna Gatsby à des gens, puis je leur dis « vous avez pleuré ?» Et je me méfie des gens qui pleurent pas devant le spectacle d'Anna Gatsby.
J'ai vu le spectacle d'Anna Gatsby et c'est vrai que je me suis demandé avec angoisse si j'avais pleuré, je me souviens pas, c'est trop vieux. Mais oui, pour moi, le féminisme, c'est ça aussi. C'est pour ça que j'aime beaucoup cet extrait que tu as choisi. C'est aussi se poser la question de ce que vivent d'autres personnes, on va dire opprimées, même si c'est un terme qu'on utilise beaucoup dans les milieux militants et qu'il ne parle pas forcément au commun des mortels, mais bon... on va dire que notre émission est quand même beaucoup écoutée par des personnes féministes et j'espère beaucoup de personnes dans leur voiture en rentrant du travail le soir ou comme je dis toujours en faisant la cuisine à midi. Je dis bien personne, j'ai pas dit femme. Hein. Notamment ce que vivent les personnes lesbiennes. Parmi elles, tu nous l'expliqueras, c'était une émission je crois sur les butch. Et ou les personnes racisées, ou les personnes de classe sociale différente. Bon, ben voilà, moi, je suis une femme blanche, d'une classe sociale plutôt élevée. Et effectivement, c'est quelque chose que je dois apprendre. Et donc, est-ce que j'ai l'impression qu'il y a une volonté aussi dans tes émissions de faire entendre ces voix-là?
Alors, tout à fait, ouais, j'essaye, en tout cas... Tout comme certains ont l'impression de devoir faire un effort pour donner la parole à des femmes. Ouais, moi, je donne la parole à des femmes, ça, c'est pas un effort. Mais par contre, j'essaye de faire que dans ces femmes qu'on entend, il y ait un petit peu de diversité. Alors, de la diversité peut-être au niveau des âges, peut-être au niveau de la couleur de peau. J'ai reçu Amandine Gay ou Fatima Wasak, des personnes qui sont peut-être pas aussi blanches que moi. Et ça fait du bien d'avoir aussi ce regard-là, cette parole-là, qui est forcément différente parce qu'elles ont une histoire différente, elles ont un vécu différent, elles font face à des oppressions différentes, des multi-oppressions, ce que moi, en tant que personne blanche, je ne subis pas. Elle, par contre, j'en subis en tant que lesbienne. Et du coup, il y a aussi des lesbiennes, il y a aussi des personnes hétérosexuelles, il y a des personnes trans. Voilà, j'essaye d'avoir un peu cette diversité. Et au-delà même de ça, j'essaye d'avoir une diversité aussi sur la parole. J'ai souvent des personnes qui ont écrit des livres, qui sont un petit peu des personnes connues. Tu citais Alice Coffin, voilà, Alice, elle a une parole publique importante, Marie-Monique Robin aussi.
Rokhaya Diallo,
voilà. Donc j'ai des fois des personnalités un petit peu connues, on va dire. Et à côté, il y a aussi des personnes comme Rizzo et Cab, dans l'émission sur les Butch, que j'ai choisi d'interviewer, elles spécifiquement. Elles sont pas connues, pas très connues, on va dire. Elles sont par ailleurs toutes les deux dessinatrices et avec beaucoup de talent, mais c'est vrai que voilà, elles sont pas aussi connues que d'autres. Mais par contre, elles ont une parole extrêmement forte parce qu'elles ont une réflexion sur ce sujet-là. Et ça, ça me paraît extrêmement intéressant d'avoir aussi la parole de personnes qui n'ont pas forcément eu accès à des plateaux médiatiques, mais pour autant ont une réflexion extrêmement intéressante. C'est ce que j'ai fait aussi quand j'ai interviewé Julie et Marjolaine à propos du livre « Notre pain est politique ». Marjolaine n'a pas directement participé à ce livre, mais en tout cas, c'est deux personnes qui peuvent raconter leur vécu, qui ont suffisamment réfléchi à leur vécu, à leur expérience, pour pouvoir l'expliciter de façon touchante, intelligible. Et voilà. Donc on n'a pas forcément besoin d'avoir des personnes connues. Mais je reviens un instant, si tu permets, sur l'émission avec Rizzo et Cab.
Oui, parce que... qui est l'émission de mai 2020, je le dis pour nos auditeurs, nos auditrices, donc qui s'appelait « Être butch, stratégie et déguisement » avec Rizzo et Carole.
Tout à fait. Et moi, j'ai trouvé Rizzo et Cab extrêmement touchantes dans cette émission. Et c'est, moi, ça fait partie des... j'aime beaucoup mes émissions, pardon. Hein, mais Mais j'aime beaucoup Rizzo et Cab. Rizzo a une parole extrêmement forte à propos de ce que c'est que d'être butch. Et en fait, être butch aujourd'hui, finalement, la discrimination, c'est pas du fait d'être lesbienne. C'est plutôt du fait d'être grosse. C'est la grossophobie qu'il y a derrière. Parce que si vous êtes, on va dire butch, c'est-à-dire d'apparence masculine, avec des, que vous adoptez des codes, en tout cas dits masculins, en fait, dans l'espace public, si vous êtes par ailleurs quelqu'un de très, de plutôt mince, là, il y aura beaucoup moins de soucis. Il y a des mannequins très androgynes aujourd'hui, donc qui vont un peu s'approprier des codes de butch. Mais voilà. Et tant que vous êtes mince, en fait, ça passe. Mais si vous êtes un peu forte, là, tout de suite, c'est en fait la grossophobie qui est derrière. C'est-à-dire qu'on peut accepter d'une femme, finalement, qu'elle ait envie de mettre une chemise à carreaux mais elle doit rester dans certains codes de la féminité qu'on nous impose, dont la maigreur, quoi, en fait.
Ma sœur, nous avons des cœurs siamois, et chaque coup que tu reçois ricoche et me frappe deux fois.
Radio BLV 93.6 et on est aussi sur Radio Féréol, Saint-Féréol, 94.2 à Cré. Aujourd'hui, la titanesque émission est hors les murs. C'est une émission sur les émissions des sœurs, je sais pas, est-ce que toutes les femmes sont des sœurs, Marie-Aude? C'est pour ça, pour toi, pourquoi je veux dire, est-ce que, pourquoi tu as choisi cette chanson?
Alors tout simplement déjà parce que je l'aime bien, elle me met la patate, et après oui, je en fait en tout cas c'est quelque chose auquel j'aspire. À la sororité, quoi. C'est-à-dire, que les femmes fassent union pour changer de système, voilà.
Mmh. Et toi, la sororité, ça te parle, la petite blanc?
Ouais, ça me parle quand même. Ça me parle bien. Même en ce moment, ça me parle beaucoup avec toutes ces histoires du gouvernement qui crache sur la non-mixité. Eh ben, la sororité, elle est bien aussi en non-mixité, et la non-mixité, elle est importante pour les combats, les luttes, quelles qu'elles soient, et ouais, ça me parle. Ouais.
Alors, je te remercie pour cette remarquable transition. On écoute tout de suite la chronique de Lucie, qui est à Paris et à qui on téléphone.
Salut Lucie. Aujourd'hui... Salut. Tu nous parles de la non-mixité, qui est un concept qu'on a pas mal entendu dans l'actualité ces dernières semaines.
Oui, le sujet de la non-mixité, il a ressurgi dans la scène médiatique à la mi-mars, au cours d'une interview. La présidente du syndicat étudiant UNEF, qui s'appelle Mélanie Luce, a expliqué qu'il y avait eu des réunions non-mixtes entre femmes et entre personnes racisées. Alors, elle a pris toutes les précautions du monde. Elle a précisé que c'était des réunions qui étaient des temps d'échange ponctuels, au cours desquels les femmes et les personnes victimes de racisme pouvaient s'exprimer sur les discriminations qu'elles subissent. Et bien sûr que les décisions du syndicat se prenaient toujours en mixité. Et malgré tout ça, ça n'a pas manqué. Tout le monde lui est tombé dessus, la droite, l'extrême droite, le gouvernement, en disant que c'était scandaleux, que c'était dangereux, parce que c'était des réunions qui qui encourageaient le séparatisme, le communautarisme, voire même, selon notre cher ministre de l'Éducation nationale, que c'était une forme de fascisme. Voilà, donc c'est pas la première fois que ce genre d'événements, de réunions non mixtes, en fait, font polémique. Et vu le contexte, notamment la loi sur le séparatisme qui est en préparation, ce sera sans doute pas la dernière. Du coup, j'avais envie de parler de la non-mixité et qu'on essaie de voir pourquoi, en fait, cet outil militant est si diabolique.
Carrément, parce qu'utiliser le terme de fascisme, il ne faut pas y aller de main morte, hein, sachant que nous, on n'a jamais causé la mort de personne, encore moins 2 millions de personnes juives, homosexuelles et tziganes. Bref, je ne m'énerve pas. Et je te demande de nous expliquer alors ce qu'est cette fameuse non-mixité.
Alors pour commencer, on peut distinguer la non-mixité choisie et la non-mixité subie. C'est important parce que ça permet de comprendre pourquoi justement c'est assez malhonnête d'accuser les groupes militants de séparatisme. La non-mixité subie, c'est celle qui existe partout dans notre société. En fait, de fait, au quotidien, il y a plein d'espaces qui sont non mixtes, des espaces politiques, culturels, professionnels, qui sont occupés majoritairement, voire exclusivement, par des personnes qui appartiennent à des groupes dominants. Alors typiquement, le stéréotype du dominant, le mâle blanc bourgeois de 40-50 ans, on voit souvent des photos où, dans des réunions sur l'informatique, dans des conseils d'administration de grosses entreprises, etc., où on n'a que des hommes blancs grisonnants. Et donc bizarrement, ça dérange personne. En tout cas, ça ne dérange pas les dominants.
Oui, ce qui n'est pas le cas de la non-mixité choisie. Hein.
Effectivement, puisque la non-mixité choisie, donc là, c'est la non-mixité qui est choisie par les groupes dominés, et là, forcément, ça pose problème. C'est un outil militant, en fait, qui a été utilisé par les mouvements des droits civiques aux États-Unis dans les années 60, et aussi par les mouvements féministes, plus particulièrement le MLF en France dans les années 70. Et ça consiste donc, ce que proposait l'UNEF, à réserver des temps aux personnes qui vivent une discrimination, raciste ou sexiste dans ces cas-là, pour qu'elles puissent s'exprimer librement sur ces discriminations et réfléchir ensemble aux moyens, aux stratégies pour lutter contre ces discriminations.
C'est exactement ce qu'on fait dans les stages d'autodéfense féministe.
Tout à fait. Du coup, dans ces stages, on se réunit entre femmes et on échange sur nos expériences, sur nos vécus de femmes, et on construit ensemble des stratégies pour lutter contre les violences, pour se protéger, etc. Et c'est fondamental d'être en non-mixité parce que ça permet de s'exprimer sans crainte sur les violences qu'on subit, on n'a pas besoin de faire de la pédagogie, d'expliquer ces violences à des hommes qui pourraient se sentir offensés, se vexer par ce qui est dit, le fameux « non, mais pas moi, quoi, not all men, ouin, ouin ». Et donc, on peut exprimer de la rancœur, de la colère, parce qu'on a fait lors de la dernière émission. Et on réduit quand même considérablement le risque que ce soit la vision des dominants sur les violences qui finissent par s'imposer. Du coup, là, je pensais à une titanesque émission fort, fort lointaine où j'avais parlé du mansplaining, où du coup, c'est cette tendance qu'ont les hommes à venir nous expliquer la vie principalement sur des sujets qui nous concernent ou sur lesquels on est experte. Donc forcément, en non-mixité, on n'a pas ce problème-là.
Ça me fait penser à la titanesque émission de janvier où tu disais que ça n'avait pas de sens de parler de sexisme anti-homme ou de racisme anti-blanc. Et on pourrait répondre la même chose exactement à ceux qui critiquent la non-mixité en parlant de séparatisme.
Bah ouais, complètement. Parce que s'il y a une non-mixité qui provoque structurellement de la ségrégation, bah c'est la non-mixité qui est subie, donc celle qui est imposée aux groupes opprimés par les systèmes de domination, qu'ils soient patriarcales ou racistes. Et la non-mixité choisie, par contre, c'est juste un outil, en fait, c'est pas une fin en soi, c'est pas du tout un projet politique des groupes militants féministes antiracistes qui auraient pour projet d'éradiquer les hommes ou les blancs de la Terre. C'est juste des temps ponctuels, en fait, voilà, mais c'est des temps qui échappent aux dominants, ils ont pas de droit de regard sur ce qui s'y passe, et bah, forcément, ça leur fout la trouille.
Je soupire. Et tu voulais nous donner une ressource pour celles qui ont envie de creuser le sujet?
Oui. Du coup, bah, j'ai parlé de l'article de Christine Delphi qui explique très bien la nécessité de la non-mixité dans le militantisme féministe et antiraciste. Et il y a aussi un article et un extrait d'interview de Rokhaya Diallo. Ça date de 2017, mais elle l'a republié sur sa page Facebook à l'occasion de cette polémique là sur l'UNEF. Et du coup, ça explique aussi très bien la non-mixité et pourquoi c'est un outil politique indispensable.
Rokhaya Diallo, non-mixité, etc. Petite Blanche, je sens que t'as envie de dire quelque chose.
Bah oui, non, c'est des sujets forcément qui me donnent envie de réagir. Mais deux petites choses peut-être par rapport à cette chronique. D'abord, elle cite beaucoup Christine Delphi, et c'est tant mieux. Voilà, une lesbienne fort intéressante à lire et à connaître. Et notamment, Christine Delphi, elle explique très bien. Elle dit, de toute façon, l'égalité homme-femme, les hommes vont y perdre. Donc à partir du moment où vous dites aux dominants, en fait, vous allez y perdre, eh ben, ça ne leur plaît pas. Et les réunions non mixtes, ben, c'est ça, point barre. C'est, on fait des l'homme blanc dominant, il a l'habitude que tout... lui soit dû, que tout lui soit, que tout lui appartienne, que ce soit le corps des femmes, le corps des enfants, j'en parle dans l'émission du mois d'avril avec Marjolaine Vidula, mais que ce soit, enfin tout le reste, donc même une réunion, voilà, et on dit quel est le meilleur moyen d'intéresser les hommes au féminisme, bah c'est de leur interdire les réunions féministes, et là, ah bah tout de suite ils ont envie de venir, donc c'est vraiment ça, c'est ils ont pas envie de perdre quelque chose, quoi que ce soit, rien. Ils veulent rien lâcher, et bah du coup, en fait, ça les embête. Et puis, la deuxième idée qui m'est venue en écoutant cette chronique, c'est qu'il y a aussi de la non-mixité, alors que là, je connais bien aussi, entre hétérosexuels et homosexuels. Et par exemple, c'est quelque chose peut-être dont on parle moins en ce moment, mais moi, j'ai longtemps, par exemple, pratiqué du sport dans des clubs majoritairement homosexuels. Et à chaque fois que j'en parlais à des gens hétéros, ils me disaient « Ah, mais ah, ouais, d'accord, bah, vous êtes, finalement, vous nous excluez, vous êtes... » Enfin bon, j'ai tout entendu là-dessus. Et il faut bien comprendre que la non-mixité, quelle qu'elle soit, ou le fait d'avoir un club de sport, par exemple, homosexuel, vient du fait qu'on se soit fait d'abord rejeter par un groupe de dominants. Donc si les dominants, eh ben, ils n'étaient pas ce qu'ils sont, on n'aurait pas besoin de faire de la non-mixité, on n'aurait pas besoin d'avoir un espace de loisirs, par exemple un club de sport, dans lequel on peut pratiquer son sport en vivant ouvertement sa sexualité, sans qu'on soit jugé, voire agressé, voire exclu.
Et en ce moment à Creil, il y a une petite polémique justement sur cette question, parce qu'il y a eu la manif du 6 mars, sans hommes 6 dans la rue, et le journaliste du Crétois n'a pas apprécié parce qu'il n'a pas été convié. Donc ça a donné lieu à une tribune en réponse, et dans le Crétois, qui est le journal hebdomadaire de Creil environ, et un monsieur qui a une tribune toutes les semaines dans le journal dénonce la guerre des sexes, il parle de racisme inversé pour des trucs, de ces sexisme inversé. En fait, je pense qu'il va y avoir des tas de réponses. Moi, ça m'a mis très en colère. J'ai pas le temps, mais j'ai vraiment plein de choses à dire là-dessus que j'aimerais bien envoyer. Enfin voilà, si j'avais le temps, j'écrirais aussi au journal. Et là, ça reflétait vraiment cet homme qui a une demi-page dans le Crétois toutes les semaines depuis des années, se sent vexé parce que des femmes ont voulu une fois manifester pendant 2 heures sans homme. Oh, mon Dieu, quoi.
Alors, moi, je souligne quand même, j'y étais cette manif. Je pense que vous y étiez.
Non.
Non. Bon. En tout cas, j'y étais. Et moi, ce que j'en ai retenu, comme beaucoup de femmes présentes, c'est la joie. Il y avait beaucoup de joie à être là, ensemble, tranquille, peinarde, en écoutant de la musique. Et un grand sentiment, justement, de sororité. La petite blonde, tu voulais rebondir, mais t'as pas beaucoup de temps parce que.
Ouais, mais justement, parce qu'on peut le citer. Je pense que Marie-Aude faisait référence à Vincent Meyer.
Exactement.
Une tribune, et c'est absolument génial cette tribune, c'est tout est dit dans cette tribune, c'est vraiment la démonstration d'un mec qui n'y connaît rien, qui ne va pas prendre la peine de s'intéresser à un sujet, de s'informer, de s'éduquer un peu, de se hausser, non, plutôt que de faire ça, il va déballer tout un tas de poncifs, de choses de mauvaise foi, fausses, de mensonges,
enfin, il dit tout et son contraire,
et c'est vraiment typique d'un homme, jamais. Bah, une femme ne ferait pas ça. Une femme, si elle va écrire une tribune dans le Crétois ou ailleurs, elle se dirait, bon, peut-être je m'intéresse au sujet dont je vais parler. Si je n'y connais rien, en fait, je me tais. Et ça, c'est vraiment un comportement masculin, moi, qui me met hors de moi, c'est ça. C'est le mec, il n'y connaît rien, mais oh bah, il va quand même faire une tribune pour nous dire à quel point...
Je dirais un comportement masculin parce que dominant.
Oui,
hein,
oui,
on
oui,
est bien d'accord. Enfin, je sais que c'est ce que tu voulais dire. Bah, justement, Marie-Aude et Alexandre ont fait une émission sur les masculinités. Alors, on va écouter un extrait et après, bah, tu nous diras comment ils étaient, ces hommes-là.
C'est des choses dans lesquelles je mets plus ou moins d'énergie. Dans mon couple, j'y mets pas mal d'attention quand j'en aurai moins, quand au boulot, enfin, dans d'autres espaces. Donc voilà, il y a encore tout un chemin à mettre en avant, quoi. Mais voilà, depuis petit, j'ai malgré tout ce truc-là d'un besoin d'égalité un peu viscéral. Enfin voilà, une part de gâteau, il faut que ce soit 50-50. Si t'as un gramme de plus, voilà, ça va pas le faire. Bon, après, quand j'ai un gramme de plus, du coup, je suis moins. Je suis moins regardant, mais.
C'est vraiment la plus belle allégorie du premier cas, tu t'en rends compte.
Oui, je sais.
On va la garder, celle-là.
Mais du coup, voilà, ça reste cette attention-là assez. je vais rester sur cette phrase, en vrai.
Donc on a, c'était notre 7e émission, on a mis un peu de temps à préparer cette émission, on tournait autour du sujet, on voulait parler des hommes et du féminisme et tout ça, et c'était, bon, finalement on a fait le choix d'inviter 3 hommes qui se disent en chemin, enfin voilà, dans une certaine déconstruction, ou en tout cas que nous aussi on a observé, et on les a interrogés un petit peu sur leur parcours, voilà, on voulait comprendre un peu c'était quoi leur déclic, qu'est-ce qu'ils faisaient, qu'est-ce qu'ils mettaient en place, comment ils s'étaient documentés. Donc le thème de l'émission, c'était les masculinités, mais en vrai c'était plutôt le parcours d'hommes en chemin, voilà, dans une déconstruction, donc qui effectivement remettent en question leurs privilèges, remettent en question tout un tas de choses dans le quotidien, et voilà, on voulait avoir leur... Donc on a donné la parole à des hommes, mais c'est vrai que toutes les autres émissions, en général, on cherche des invités féminines, voilà, on va essayer de privilégier, mais là, c'était vraiment pour les entendre aussi...
J'imagine que c'est aussi une émission qu'on peut écouter si on est un homme qui s'intéresse au féminisme.
Exactement.
Et que finalement c'est une forme de conseil.
Tout à fait.
De réflexion sur le sujet, c'est super. On va écouter la chronique d'Anna qui s'enflamme, Anna qui s'enflamme chaque mois, donc elle s'est enflammée comme d'habitude.
Alors, aujourd'hui dans la chronique Anna s'enflamme, j'aimerais développer un peu plus ce qui me dérange dans la phrase Not all men, ou non mais pas tous les mecs. Déjà, comme je l'ai dit dans ma dernière chronique, ce n'est peut-être pas tous les mecs, mais c'est suffisamment pour que j'ai peur. Et puis bon, au cas où vous ayez besoin d'une métaphore, si on vous disait que derrière la porte devant laquelle vous vous trouviez, il y avait 10 serpents et que sur les 10, il n'y en a que deux de venimeux qui vous tuent en vous mordant, est-ce que vous prenez vraiment le risque d'ouvrir la porte? Ben, moi, perso, non, je vais juste aller en prendre une autre. Une fois, un mec m'a dit, oui, mais moi, ça me fait souffrir d'entendre ça. Ok, mais cette souffrance, elle vient d'où? De ta culpabilité? Ben, dans ce cas-là, vraiment pas mon problème. Et pas non plus un problème qui vient de ma généralisation, mais plutôt de toi, toi qui sais qu'au fond, tu en fais un peu partie. J'ai pas la place pour partager cette souffrance avec toi. J'ai déjà un gros rocher sur les épaules et je ne peux pas y ajouter d'autres cailloux. Pour ceux qui pensent juste ne pas en faire partie, eh ben, sachez que si. Je te laisse déjà réfléchir sur comment est-ce qu'il est possible qu'on connaisse tout quelqu'un qui a déjà été agressé, mais que tu ne connaisses aucun agresseur. C'est statistiquement impossible. Et puis, comme tous les hommes ne sont pas des agresseurs, eh bien, tous ne choisissent pas de remettre en jeu le patriarcat, la misogynie, les blagues sexistes, le blague des victimes et bien d'autres choses encore. Et puis, juste parce que tu ne peux pas échapper au système. En tant que femme, je n'échappe pas au système non plus et j'essaye de m'en déconstruire pour moi-même et pour les autres. Donc si, c'est tous les mecs et tu es inclus à l'intérieur.
Elle est en colère, hein.
Ouais, ça fait du bien.
Ça me rappelle vraiment une discussion que j'avais hier avec un ami et une amie, et on a parlé règles et poils, et le mec, il a ouvert les yeux en disant « Ah putain, mais... Ah ouais, vous vivez ça quand même !»
On en revient toujours à ça, l'histoire de, effectivement, se projeter dans une situation qu'on connaît pas, et s'informer un petit peu dessus avant de... nous balancer des jugements définitifs sur le fait qu'on serait trop ceci ou trop cela. On va s'aérer un peu la tête avec une chanson que j'ai choisie. Je vous laisse écouter.
Faire tous ensemble un grand pique-nique dans la nature, en emportant des paniers, des bouteilles, des paquets et la radio. Ba-da-da-da, ba-da-da-da-da, ba-da-dui-ba-da-da, ba-ma-dui-da-da-da-da. Des cornichons, de la moutarde, du pain, du beurre, des petits oignons, des confitures et les œufs durs, des cornichons. Des cornes-bif et des biscottes, des macarons, un tire-bouchon, des petits beurres et de la bière, des cornichons. On n'avait rien oublié, c'est maman qui a tout fait. Elle avait travaillé 3 jours sans s'arrêter pour préparer les paniers, les bouteilles, les paquets et la radio. Le poulet froid, la mayonnaise, le chocolat, les champignons, les ouvre-boîtes, les tomates, les cornichons. Ba-da-da-da. Ba-da-da-da-da. Ba-da-dui-ba-da-da. Ba-ma-dui-da-da-da-da. Ba-da-da-da. On avait oublié, c'était les parapluies. On a ramené les paniers, les bouteilles, les paquets et la radio. On est rentré manger à la maison. Le fromage et les boîtes, les confitures et les cornichons. La moutarde et le beurre, la mayonnaise et les cornichons. Le poulet, les biscottes, les œufs durs et puis les cornichons.
Vous aurez reconnu une reprise des cornichons de Nino Ferrer par une dame qui est une star canadienne qui s'appelle Ginette Reno. Ça date de 1971. Bon, c'est un de ses plus grands succès. Ça s'appelait Roger et l'autre J'aime Guy. Vous aurez donc compris que c'est une dame qui est née en 1946. Mais c'est toujours une grande star canadienne. Donc vous avez compris, la prochaine fois vous partez faire un pique-nique au bord de la Drôme, de la Roanne, ou vous prenez votre téléphone et vous écoutez Du Poil sous les bras, Écoféministe, ou la titanesque émission, ça vous mettra de bonne humeur, ou en colère, ou ça vous fera réfléchir. Enfin bref, c'est tout à fait adapté pour un pique-nique pépère en famille.
Par contre, vous ne demandez pas à votre mère de préparer le pique-nique pendant 3 jours, comme dans la chanson.
C'est clair, c'est clair. Dernier extrait qu'on va écouter, c'est un extrait de la prochaine du poil sous les bras du mois d'avril, où la petite blonde, tu as invité maître Marjolaine Vignola, et on écoute tout de suite. Vas-y, Élie, envoie.
Le dominant a toujours du mal à renoncer à ses propres privilèges. Et donc, ce qui cristallise aujourd'hui, c'est que les résistances, en fait, sont celles des dominants qui ne veulent pas abandonner le privilège d'avoir un accès impuni à de la chair fraîche, à des enfants ou à des femmes. Au-delà du fait qu'on baigne dans une culture du viol, puisqu'il y a, certaines femmes qui sont et ont un tel sexisme intériorisé et vont s'inscrire en contre-transfert par rapport à des femmes victimes en disant « mais moi jamais, si ça m'était arrivé, je lui aurais foutu une tarte, je me serais débattue, et donc si elle ne l'a pas fait, c'est que c'est une mauvaise femme ». Et donc il y a des juges qui peuvent avoir ce regard-là aussi.
Alors là, c'est une émission plus grave, puisque maître Vignola, elle défend Julie, c'est ça? Tu veux...
Oui, on peut en dire un mot. Plus grave, je sais pas. Elles sont toutes
plus graves que les sujets sont quand même.
Oui, c'est moins léger, on va dire. Oui, alors c'est une émission pour laquelle Marjolaine Vignola. Alors, pardon, Marjolaine, si tu nous entends, je ne dis pas maître parce que pour moi c'est un terme que je ne peux pas utiliser dans le cadre d'avocat ou de notaire.
On pourrait dire maîtresse en plus si on voulait utiliser un langage, mais bon.
C'est connoté autrement. Hein.
C'est-à-dire qu'en plus d'être un terme de nomination, en plus il est sexiste, voilà. Donc pour moi, elle est juste avocate et c'est très bien ainsi et ça n'enlève rien à ses compétences et à tout le respect que j'ai pour elle. Voilà, donc Marjolaine Vignola, l'avocate de Julie, l'affaire Julie dont certaines et certains d'entre vous ont peut-être entendu parler, en tout cas sinon vous pouvez écouter l'émission pour en savoir plus. Mais c'est aussi une émission dans laquelle on a parlé plus largement, et c'est ça ce qu'elle dit dans l'extrait, c'est on a parlé plus largement de comment la justice, le système, l'institution judiciaire aujourd'hui est une institution sexiste, patriarcale, avec des juges machistes qui rendent une justice, voilà, qui continue de protéger bien mieux les hommes que les femmes, et une justice majoritairement dominée par des hommes qui vont la plupart du temps s'arranger avec des lois qui sont pas forcément mal faites, mais toujours s'arranger pour que quand même la femme reste bien à sa place. Et voilà, et merci à Marjolaine Vignola. Et je cite aussi du coup Lorraine Questio, qui n'est pas invitée dans mon émission, mais qui est l'autre avocate qui travaille en collaboration avec Marjolaine Vignola sur l'affaire qui concerne les Julie.
D'accord. Alors, j'étais en train de réfléchir. Quand je t'écoutais, je me suis même dit, j'ai parlé de Julie, mais en fait, j'aurais dû dire l'affaire des 20 pompiers violeurs, parce que Julie, c'est le nom de la victime. Donc, c'est pas l'affaire Julie, c'est l'affaire de 20 pompiers qui se sont permis de violer à répétition pendant des années une jeune fille de 13 ans qui est aujourd'hui gravement handicapée. Donc, un truc vraiment dégueulasse. Et oui, la justice, j'aurais des milliards de choses à en dire aussi. Mais en tout cas, j'invite tout le monde à écouter cette émission avec Marjolaine Vignola, parce que c'est une spécialiste aussi des questions de harcèlement sexuel en entreprise. Et je suis sûre que ça sera une émission passionnante. Nous voilà non seulement à la fin de cette émission, mais à mon avis, on a largement dépassé notre temps. Mais pour autant, on va terminer en légèreté et en douceur avec la chronique jeunesse d'Oxane. Oxane, elle a 11 ans et on écoute ce qu'elle a à nous dire sur le dernier livre qu'elle a lu.
Salut Oxane.
Salut.
Alors, de quel livre tu nous parles aujourd'hui?
Je vais vous parler d'un roman qui se nomme « Celle qui voulait conduire le tram ». Ce roman est destiné aux plus de 12 ans. Il faut connaître un peu l'époque de la Première Guerre mondiale et le féminisme pour comprendre, et il faut avoir le cœur accroché parce que l'histoire est dure. L'histoire débute en 1945 avec Luce qui veut découvrir ce qui est vraiment arrivé à sa tante qui a mystérieusement disparu 25 ans plus tôt. On fait alors un retour en arrière en 1916. Sa tante, donc Agnès, doit travailler pour subvenir à ses besoins parce que son mari est au front. Un jour qu'elle prend le tram, elle voit une femme qui travaille et ça l'étonne. Quelqu'un lui dit que c'est bien payé. Elle réussit à se faire embaucher pour la compagnie de tram comme conductrice.
Ah oui, parce qu'à cette époque, les femmes ne travaillaient pas juste parce que c'était normal qu'elles travaillent et pour être autonomes, mais seulement si le mari ne pouvait pas travailler, en fait.
Ouais, c'est un peu ça, ouais. Malheureusement. Et vu que les hommes rentrent de la guerre et reprennent leur boulot, elle est renvoyée. Elle décide de se rebeller avec des féministes, dont une accusée d'être lesbienne.
Non, parce que lesbienne, c'était interdit à l'époque.
Bah, interdit, je dirais pas ça, mais en tout cas, c'était un peu comme des malades mentales.
Ah oui, oui, alors que l'homosexualité a effectivement été dans les maladies mentales pendant de nombreuses années, et ça a été retiré en 1970, je crois, de la liste des maladies mentales, et bien heureusement, parce que depuis quand l'orientation sexuelle, c'est un problème mental. Et alors, qu'est-ce qu'elle fait avec les féministes?
Elle participe à des manifestations pour avoir plus de droits et pour pouvoir voter, parce que voter, c'est exister, comme elle le dit. Agnès était très amoureuse de son mari, qui était un homme bien, mais la guerre l'a abîmée. Il commence à dire que sa femme ne s'occupe pas assez de lui, et quand il découvre qu'elle est féministe, il la bat. Et ça va vraiment mal finir. C'était si émouvant que j'ai pleuré. À la toute fin, on revient à Luce le 29 avril 1945. Je vous laisse chercher ce qui s'est passé ce jour-là. Et là aussi, j'ai pleuré. Un tout petit extrait révélateur que Kat va nous lire.
Risquer ainsi les injures et les menaces d'opposants, peut-être même une arrestation, voire la prison, c'était une folie extrême et dangereuse. Écoute, René, dit-elle enfin, je ne suis pas sûre. C'est la peur qui nous perd, l'interrompt son ami. La peur d'être une mauvaise épouse, une mauvaise mère, de salir sa réputation, d'essuyer des coups. La jeune femme poursuit ses maigres joues échauffées par l'indignation. Ce sont les hommes qui ont défini les règles que nous suivons aveuglément. Il est absurde de nous plier un code de conduite que nous n'avons pas choisi. Si nous ne dépassons pas nos peurs, nous ne changerons rien à notre situation. Et les hommes continueront à décider pour nous. Je n'ai pas envie de ça, Agnès. Et toi non plus, j'en suis persuadée. Waouh! On sent que c'est un livre, effectivement, où la rébellion des femmes leur coûte cher. J'imagine que c'est pour ça que tu as pleuré.
Oui.
Heureusement, tu nous parles d'un livre triste, mais c'est bien les livres tristes aussi, parce que ouais, parfois, ce qui se passe, bah, c'est triste ou ça fout la rage. Mais on termine sur une note super positive, parce que je crois que tu as une surprise pour nous.
Oui, j'ai invité ma meilleure amie, Vega.
Salut.
Alors.
C'est moi.
Salut, Vega.
Alors, aujourd'hui, je vais vous parler d'une série que j'ai kiffée, super top. Je vais vous présenter une série super bien qui porte le nom de Les désastreuses aventures des orphelins Baudelaire. C'est l'histoire de trois enfants, Violette, Klaus et Pruny Baudelaire, dont les parents sont morts dans l'incendie de leur maison.
Oh, bah c'est triste ça aussi alors.
C'est triste. Un monsieur nommé le comte Olaf prétend être un membre de leur famille et en fait, il veut juste leur immense fortune. Violette, Klaus et Pruny Baudelaire vont devoir supporter le comte Olaf pendant pas mal de temps. Heureusement pour eux, Violette, l'aînée de la fratrie, ne va pas tarder à être majeure et donc récupérer l'argent. Mais avant ça, ils vont vivre de véritables aventures. En bref, je vous conseille ça parce que Violette est très intelligente. Pruny est un bébé, mais c'est déjà bien se débrouiller. Et en plus, cette série passe le test de Bechdel. En bref, c'est super féministe. Les filles sont super intelligentes et super fortes. Je trouve que c'est mieux de regarder vers l'âge de 8 ou 9 ans. Hey, j'allais oublier. Cette histoire est aussi disponible en film et il y a une série de livres. Merci de m'avoir écouté. Au revoir.
Attends, Vega, pars pas tout de suite quand même. Dis-nous un peu qui tu es, quel âge tu as?
J'ai 8 ans, donc je suis assez petite. Ben, Oxane, en fait, celle qui nous a raconté le livre dramatique auquel elle a pleuré deux fois. Hein. Elle m'a beaucoup aidée, donc je voudrais la remercier déjà parce qu'elle m'a beaucoup aidée. Donc, je la remercie du fond du cœur.
Merci, Vega.
Vega, tu vas nous faire donc une chronique sur une série ou un film féministe chaque mois, c'est ça? T'es d'accord?
Oui. À part que si j'ai attrapé la grippe, là, hein, je pense que je vais faire en même temps.
C'est vrai. Donc, on vous retrouvera toutes les deux tous les mois pour une chronique livre jeunesse, donc, et pour une chronique série et film jeunesse féministe. Et ben, je vous dis au revoir et au mois prochain. Salut.
Au mois prochain. Au revoir, les filles.
Au revoir.
Vive les féministes.
Girl power.
Donne-moi ta main et prends la mienne. La cloche a sonné, ça signifie la rue est à nous, que la joie vienne.
Marie-Aude, une petite conclusion pour terminer cette émission?
Écoutez les émissions de Radio Féministe.
Et toi, le petit blanc?
Eh bien, pas mieux, oui, non, faites ça, c'est bien. Merci, en tout cas, pour cette invitation. Merci, Kat.
Merci.
Ça m'a fait trop plaisir. Écoutez nos émissions, vous vous éclaterez. Je dis au revoir à tout le monde. Merci à Élie, qui débutait dans la technique et qui est trop fort. Et bah salut, au mois prochain.
Salut.
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 Salut Ellie.
Yo, tell me what I want, what I really, really want. So tell me what you want, what you really, really want. I'll tell you what I want, what I really, really want. So tell me what you want, what you really, really want. The boys wanna be her, the girls wanna be her. The boys wanna be her, the girls wanna be her. The boys wanna be her, the girls wanna be her. The boys wanna be her. I wanna be.
Sur les bonnes ondes de Radio Saint-Fé, dans les ondes buissonnières, vous venez d'écouter l'émission Titanesque enregistrée dans notre studio la semaine dernière. C'était une proposition de Kat qui invitait Marie-Aude et la petite blanc de Radio Saint-Fé pour parler émission de radio féministe. Retrouvez cette émission sur le site de Radio Saint-Fé, www.radiosaintfé.com, rubrique émission de la rédaction et les ondes buissonnières. Pour de nouvelles ondes buissonnières, on se retrouve la semaine prochaine, même heure et même fréquence.
Les ondes buissonnières.
Oui.
Diffusion sauvage.
Les ondes sauvages diffusent.
Non.
Diffusion sonore pour oreilles encrassées.
Non.
Diffusion sauvage pour des oreilles apprivoisées.
Non.
Les ondes buissonnières, diffusion sauvage de sonorités apprivoisées.
Yes.